You're with SBS Radio.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Je suis en studio avec Louis-Philippe Lonck, un explorateur belge aventurier et conférencier motivationnel. En 2008, il réalise une première mondiale en traversant à pied la longueur du désert de Simpson, en passant par son centre géographique. En juillet dernier, vous êtes parti pour ce qui devait être votre expédition la plus difficile et la plus exigeante à ce jour. Louis-Philippe, bonjour et bienvenue dans les studios de SBS French.
Bonjour.
Alors, avant de parler de votre expédition en Tasmanie, est-ce que, pour nos auditeurs, vous pouvez vous présenter ?
Eh bien, je suis Louis-Philippe Lonck, j'ai 41 ans, né en Belgique et toujours belge. Peut-être un jour, on va m'offrir la nationalité australienne, hein, parce que je viens régulièrement. J'ai, on va dire, deux métiers. Hein. Je travaille dans la consultance en informatique et là, je me spécialise depuis un an sur la protection des données avec la nouvelle loi européenne, la RGPD. Une passion qui est en train de devenir un métier où je voudrais évidemment que ça devienne mon métier à plein temps, c'est de faire des expéditions, continuer à en faire et de monétiser tout ça, donc avec livres, conférences que j'en fais déjà et films évidemment.
Ça, ce serait difficile c'est difficile à en faire son métier, d'être aventurier ?
Oui, pour deux raisons dans mon cas. Donc la Belgique est un petit pays. Et je vous remercie de m'accueillir déjà aujourd'hui, c'est que sortir des frontières de la Belgique en tant que notoriété, c'est vraiment pas évident. Donc s'il y avait un aventurier luxembourgeois, entre guillemets, mais personne ne le connaîtrait, il ferait son truc dans son coin. En Belgique, voilà, je commence à avoir des sponsors matériels, mais pas d'argent. Si j'ai des Français, il y aurait des budgets de communes parfois, de régions entières qui mettent parfois de l'argent dans quelqu'un qui va faire un projet assez audacieux. Américains, là tout de suite on fait, je serais peut-être déjà millionnaire entre guillemets aux États-Unis avec mon propre show télé, ce genre de choses. Donc la Belgique est petite, on est souvent pas assez à se mettre en avant et se vendre entre guillemets, donc moi parfois je crois y arriver, donc ça marche un peu. Et voilà, donc ça, ce sont un peu mes deux métiers, mais voilà, c'est avant tout une passion, on le fait pour soi, pas parce qu'un sponsor a dit tu vas aller faire l'Everest, là, ça va être bien pour toi. Non, je choisis ce que je fais.
D'où est venue cette passion de voyager, de devenir aventurier, d'être un explorateur ?
Alors, on va revenir quelque part à l'Australie. Donc en 2001, crash, bulle internet. Les towers par Ben Laden, boom, mise à terre. Moi, je devais aller à New York, je travaillais pour la banque ING. Je devais aller à New York 6 mois. Coupure de budget. Ils disent, mais par contre, on a une mission de 4 mois un peu plus courte. C'était 6 mois à New York, 4 mois à Singapour. Je ne savais même pas où c'était sur la carte. Donc, je pars 4 mois à Singapour. J'adore, je commence la plongée sous-marine. Première passion, plongée. Et de la plongée, un jour, on se dit, mais on va aller faire la Grande Barrière de Corail en Australie. Et puis à un moment donné, on plaque tout, l'appartement, le machin. Je dis, voilà, on part un an en Australie, on va plonger. J'achète ma voiture à Sydney, il y a en fait, quasi 12 ans, c'était en 2004, donc 14 ans. Et puis, je fais le tour du pays, mais je commence la rando, parce qu'évidemment, il y a plein de choses à voir. Et puis je reviens après un an en Belgique, j'avais fait 2000 km de rando cumulés dans tout le pays et un peu en Nouvelle-Zélande, une centaine de plongées. Et j'avais commencé à faire de l'off-track, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vers la fin, je commençais à faire des randos non officiels, non connus un petit peu. Et puis il y a des bouts de rando où j'ai dit, mais ça, je veux faire un jour en plus long, etc. Et puis d'un coup, on passe de vouloir faire la rando presque guidée, en mode très très tourisme, en disant, je vais prendre tous mes vivres. C'est un peu ma spécialité aujourd'hui, c'est l'autonomie complète. Alors Tasmanie, c'était pas ça, on y reviendra. Et puis voilà, et puis tout d'un coup, on se retrouve maintenant, on est en 2018, encore, j'ai pas la tête, j'ai pas encore tout récupéré. Donc on est bien en 2018. Et voilà, je réalise ma 16e expédition, ma 11e première mondiale. Et je crois que ça doit être ma 6e expédition en Australie.
Alors, quand je vous présentais, on parlait, donc je disais, un explorateur belge, aventurier et conférencier motivationnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un conférencier motivationnel?
Oui. Alors, l'idée de l'adjectif motivationnel, c'est pour expliquer que lorsqu'on intervient en entreprise, ça peut être dans les écoles, on fasse le pont entre ce qu'on a appris pendant les expéditions et ce qu'on connaît du monde de l'entreprise. Et donc, je continue à travailler dans mon entreprise, donc je suis assez, je ne trouve plus le mot, il faut que je le retrouve, mais j'ai la validité, je ne trouve plus le mot pour pouvoir le faire. Et pardon ?
La légitimité.
Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais, la légitimité, donc je suis légitime de faire ce genre de choses. Et avec ce que j'ai appris, parce qu'il faut se motiver le matin pour se lever lorsqu'il fait froid dehors, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'on est dans le désert, je découvre des petites astuces, des petites choses qui font que l'idée de motivation permet d'inspirer évidemment les personnes. Et se dire, les personnes font souvent waouh. Bon, il y en a qui n'adhèrent pas du tout, mais souvent on adhère. Et se dire, le gars, il y arrive, et je suis quelqu'un de normal, hein, je suis complètement normal, à part que je fais des choses qui sortent clairement de l'ordinaire, mais je suis quelqu'un de tout à fait normal. Et c'est là que les petites choses qu'on a, on peut aider des personnes à apprendre des nouvelles choses qu'on n'apprend pas parce qu'on est dans notre 9-6 heures du matin, on va dire, enfin 9 heures, le 9 to 5, comme on dit. Quels que soient les horaires, et on n'arrive pas à s'en sortir. Moi, je prends cette opportunité d'aller faire des expéditions pour apprendre des choses. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des choses que j'apprends dans mon métier de business. À la base, j'ai fait des études d'ingénieur et de management. Il y a des choses que je prends là, que j'utilise en expédition, et inversement. Et finalement, il y a une valeur ajoutée assez élevée dans les deux domaines.
Alors, aujourd'hui, vous êtes là, on va parler de vos nombreuses expéditions, mais vous êtes à Sydney ce week-end. Vous venez de faire une expédition qui a duré 52 jours et vous êtes devenue la première personne à effectuer une traversée en solitaire et sans soutien en Tasmanie en hiver. L'expédition a officiellement débuté le 5 août dans la ville de Penguin et s'est terminée la semaine dernière à Cockle Creek, à l'extrême sud de la Tasmanie.
Oui, c'est à peu près ça. Je ne sais pas pourquoi il y a une... C'est le 4 août, c'est un samedi 4 août le départ, mais bon, il y a un média qui... Enfin, ça, on n'est pas un jour près. Hein. Et donc, mes règles pour effectuer cette expédition, j'avais trois règles. Ce n'était pas de l'autonomie complète, je vais expliquer ce que c'est. C'était, enfin, en anglais, du non-resupply, donc du sans réapprovisionnement. C'est-à-dire que je ne me suis jamais réapprovisionné de quelque manière, que ce soit en nourriture ni en gaz. Donc j'avais plusieurs bouteilles de gaz pour évidemment chauffer ma popote le matin et le soir. Par rapport à l'autonomie complète, où on ne se fait pas aider du tout, mais j'ai relié des randonnées officielles où il y a du boardwalk, vous savez, c'est les planches en bois sur le truc. Donc ça, c'est humain. Il y a des ponts, donc j'ai pris des ponts qui sont des choses humaines. Si j'étais en autonomie et vraiment sans aucun support, je n'utiliserais aucun de ces supports, je veux dire, créés par l'humanité, par l'homme. J'ai perdu à un moment donné, dans un accident, on va dire, de bateau où j'ai failli me noyer, un peu de matériel comme ma caméra et surtout ma frontale, donc ma lampe frontale. Et ben le lendemain, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a emmené dans un petit shop et j'ai racheté une frontale. Bon, pas un truc de qualité, elle a tenu une semaine. Mais voilà, je continuais sans lampe, c'était pas possible. Mais l'idée, c'était de le faire de la manière la plus difficile possible dans les conditions possibles en Tasmanie. Donc sans me réapprovisionner, première règle. Deuxième règle, je ne dors que sous tente. Donc pas question de dormir dans une cabane, une hutte de randonnée officielle. Et troisième règle, n'utiliser aucune route carrossable. Donc, pourquoi ? Parce que sinon, si je faisais tout d'un coup 50 km sur du bitume, autant prendre le vélo. Mais l'idée pour moi, c'est de m'immerger dans le wilderness de la Tasmanie qui est absolument fantastique.
Et en fait, toutes ces règles-là du coup, que vous êtes imposées, mm-hmm. c'est pour vous un moyen de vous isoler le plus complètement possible et en fait de vivre l'expérience la plus vraie possible, peut-être ?
C'est exactement ça. C'est la manière pour moi la plus pure de se retrouver seul dans cette nature. Et c'était en plus utile parce qu'avec l'Université de Paris, la maison des sciences de l'homme d'un professeur qui s'appelle Cécile Vallet, on travaille depuis 10 ans ensemble. On avait fait le designer de Simpson il y a exactement 10 ans, et maintenant 10 ans plus tard sur la Tasmanie. J'ai participé à son programme qui s'appelle « Prise de décision sous stress en environnement extrême ». Donc il y a des petits tests cognitifs, donc de la pensée, où on mesure certaines choses. Est-ce que j'arrive à mémoriser des choses au fur et à mesure de l'expédition? Est-ce que j'arrive à me concentrer à une tâche simple? Est-ce que j'arrive à parler proprement sans bafouiller pour finalement dire des choses simples? Est-ce que j'arrive par exemple à reconnaître des couleurs? Il y a plusieurs comme ça, des tests avec un questionnaire psychologique où j'explique comment je me sens. Et elle prend tout ça, elle mesure ça par rapport à un groupe de contrôle, donc différentes autres personnes qui, elles, sont bien confortablement assises chez eux à Paris. Et on mesure l'évolution de la courbe pour essayer d'isoler le paramètre qui ferait qu'on amène la personne quelque part vers le burn-out. Donc je suis sur un rat de laboratoire outdoor, donc de plein air. On étudie ce qui se passe dans mon cerveau parce que quelque part je m'en en situation de stress quasi permanente, même la nuit il y a des bruits d'oiseaux, il y a des arbres qui tombent, ça craque, ça fait vraiment pas de chance que ce soit l'arbre qui m'écrase, mais voilà, sur l'histoire de l'humanité ça va arriver sur quelqu'un, il va se faire écraser dans sa tente, et voilà, et donc on mesure ça et c'est super intéressant. Et en plus, c'est la première fois que ça va arriver quand elle va avoir le résultat dans quelques mois. C'est qu'en plus, on va pouvoir comparer avec l'âge. J'ai fait les tests il y a 10 ans. Bah, j'ai vieilli de 31 à 41. Est-ce que l'âge, finalement, a un impact sur notre façon de penser?
Alors, racontez-nous aussi, parce que c'était un périple qui était difficile. Vers la fin du périple, vous n'aviez plus de nourriture.
Ouais, j'ai dû m'alors rationner comme j'ai jamais dû faire. Donc, je suis parti avec l'idée de faire 40 jours pour à peu près 500 km. C'est très difficile d'avoir le kilométrage exact, mais c'est pas l'objectif d'avoir le kilométrage exact. L'idée, c'est que je pars de la côte, j'ai mis ma main dans la mer. Et l'objectif, c'était d'arriver à la mer au sud en hiver. Donc, fallait y arriver le 20 septembre au plus tard, le 21. Équinoxe, c'est un peu les règles. On va dire international, c'est le printemps qui commence, et je suis arrivé juste le 20, donc je voulais atteindre le cap sud de l'île. Malheureusement, il m'aurait fallu une journée en plus, et au niveau des vivres, je serais tombé évanoui d'épuisement complet.
Bah oui, parce que vous avez perdu 15-16 kilos.
16 kilos, exactement, oui. Et en fait, donc, pour expliquer, c'est les deux dernières semaines où j'ai rationné pendant toute l'expédition. La dernière semaine, c'était le soir. Donc déjà, les deux dernières semaines, je n'avais plus de repas du soir, plus de repas du matin. Donc le repas du matin, je commençais mes rations de noix. Il me restait des noix ou un peu de chocolat ou des barres céréales. Je commençais ma ration du jour, le matin, parce qu'il faut quand même manger le matin. Et le soir, c'était quelques noix l'avant-dernière semaine. Mais la dernière semaine, c'était « il me reste du gaz ». Et en plus, il fait un peu froid, parce qu'en plus, j'ai perdu quasi toute ma graisse, avec le volume que j'ai, la masse corporelle que j'ai perdue. C'était, je me chauffe un gros verre d'eau, et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des aspirines, on va prendre une ou deux aspirines avant de dormir. Ce qui en plus, c'est pas mal, puisque la douleur était là, hein, les pieds étaient quand même vachement entamés, la douleur était là, donc ça aide en plus à s'endormir, à calmer la douleur. Et ça apporte trois fois rien comme calories, mais bon, c'est utile.
Combien de pays est-ce que vous avez voyagé?
Alors moi, en termes d'expédition, j'ai dû faire des expéditions dans pas tant de pays que ça, dans 6 ou 7 pays. Mais je tiens aussi ma petite archive personnelle des pays visités, mais ce n'est pas le but de tous les faire. Le but pour moi, je pense que c'est comme ça, parce qu'il y a des personnes qui collectionnent les pays comme ça. Je pense que c'est les moments, les instants, il faut vraiment essayer de s'immiscer en pays. Donc l'Australie, je connais vraiment bien. Mais j'ai dépassé 50, je crois que je suis à 51, et demain je décolle et je passe par Hong Kong. Donc là, bizarrement, je vais peut-être aller contre ma règle. Je vais essayer de faire un jour à Hong Kong et un jour à Macao. Et je vais monter donc à, je crois, 53 pays, ce qui n'est pas énorme à 41. C'est évidemment probablement plus que la moyenne, mais par rapport aux grands voyageurs, il y en a qui ont 50 pays à 30 ans.
Est-ce qu'il y a quelque chose, à travers les années, qui vous a choqué? Par exemple, la pollution plastique ou dans l'environnement, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé?
Justement, ça c'est une autre de mes activités. Donc, je suis aussi ambassadeur d'une association de Jane Goodall, pour ceux qui connaissent, je pense qu'elle est assez renommée aujourd'hui, donc de Jane Goodall Belgium. Je suis leur ambassadeur, enfin un de leurs ambassadeurs. Et moi j'ai lancé il y a maintenant, ça a commencé en 2012, j'ai lancé une action que j'appelle le Kayak Clean, mais c'est pour tous les sports de pagaie, où on va pagayer, que ce soit en kayak, en rafting, en stand-up paddle, ou en canoë, pour ceux qui sont au Canada. Et lors de cette activité-là, on ramasse le plastique, les déchets. Et d'ailleurs, on le fait en entreprise, donc les entreprises payent. Moi, je fais cette journée-là, elle est donnée gratuitement, je suis bénévole volontaire. Et les entreprises donnent l'argent, qui remettent à la société. Ils font comme une activité team building, on l'a fait avec Lévi-Strauss, on l'a fait avec UPS, qui reviennent d'ailleurs, donc ça c'est vraiment très très chouette. Et kayaclean.org, j'espère qu'il va être vraiment live l'année prochaine, parce que l'objectif c'est d'avoir une carte où tous ceux qui font des activités de nettoyage par le sport de pagaie peuvent venir indiquer sur la carte, on était à tel endroit sur la planète, je sais pas, la Hudson River à New York, on était 12 et on a récolté 200 kilos sur la journée de déchets. Et également l'agenda. Si vous et moi-même, on se dit, tiens, on va aller dans la baie de Sydney, demain à ses congés, faire un nettoyage et faire du kayak en même temps, on met ça sur l'agenda et peut-être que tout d'un coup, on n'est pas deux, mais on est une dizaine, parce que c'est, justement, ce congé, j'avais rien à faire. Allons faire du nettoyage, il fera beau, on se fait des nouveaux copains, c'est très chouette. Donc ça, j'espère que ce sera live. Et pour moi, la pollution plastique, enfin, on va dire la pollution des eaux, est prioritaire au niveau des actions on va dire, climatologiques par rapport on va dire, au CO2 et ce truc-là. Et en plus, c'est plus facile à faire comprendre. Expliquer à un enfant de 4-5 ans que le canard qui becte le sac en plastique qui flotte sur l'eau, c'est pas bon pour lui, l'enfant il comprend. Lui expliquer le CO2, les gaz à effet de serre, il va pas comprendre. Donc pas tout de suite. Et donc voilà, et ça évidemment, il y en a partout, j'en ai vu évidemment en Tasmanie. J'ai les amis sur une des îles qui s'appelle Heard Island, qui est une île qui appartient à l'Australie, qui est une des îles les plus reculées au monde. Une expédition que je devais rejoindre, mais finalement ça s'est pas fait. On a retrouvé des déchets plastiques sur cette île. Elle est complètement inhabitée. Donc le plastique est partout dans les océans, les rivières et les lacs. Et on est en train de s'empoisonner. Il y a plein d'autres choses, mais c'est un gros poison, oui.
Quels sont vos futurs projets maintenant ?
Alors, on va d'abord se reposer un peu chez soi. Donc là, il y a un projet challenge, c'est que j'ai annoncé quelque part que je voulais écrire un livre sur mon projet en Tasmanie. J'ai écrit, donc j'ai à peu près 40 pages où j'écrivais tous les 2-3 jours. Je dois d'ailleurs encore écrire les 2 derniers jours. Je vais faire ça cet après-midi, tiens. Et donc, c'est ça qui est un challenge dans les 1 ou 2 ans à venir, parce que ce sera mon premier livre sur les 2 expéditions en Tasmanie. Donc c'est la 2e expédition en Tasmanie. Mais si en expédition pure, il y en a une que je veux faire au Nicaragua. Malheureusement, le pays, il est complètement... le président et l'armée, je crois... Enfin, je n'ai pas trop suivi les news. J'ai été un peu occupé ces dernières semaines. Mais j'ai lu rapidement. Ça ne se calme pas. Se prendre une balle bêtement, non. Donc, en Nicaragua, où je fais... Et là... tranquille, avec une personne. Donc l'idée, c'est d'être 2 ou 3, faire le tour des lacs. Et il y a une rivière qui s'appelle le Rio San Juan. C'est de la descendre. C'est culturel et écologique aussi, parce que justement, je veux faire... tout le monde connaît Street View de Google, où on peut se balader et voir la réalité. Mais l'idée, c'est de prendre des points GPS tout autour du lac et de prendre une photo de la plage, des rochers, de la côte, et de faire en fait un Street View du lac. Un temps T, qui sera pas dans le temps que je fasse ça au mois d'août de 2020, c'est d'avoir une référence. Et de pouvoir dire, tiens, dans 10 ans, le lac a évolué dans le bon sens, dans le mauvais sens, mais au moins d'avoir une référence. Et ça, c'est intéressant. Je l'ai fait sur le lac Titicaca, je veux le faire sur les lacs, les grands lacs du Nicaragua. Et sinon, il y a des traversées en Islande, il y a un truc en Nouvelle-Zélande. C'est pas les projets qui manquent, c'est le temps et l'argent. Les deux sont intimement liés quelque part. Et pour l'instant, j'ai pas envie d'arrêter.
Louis-Philippe, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous sur les ondes de SBS French.
Merci, au revoir.
Radio SBS, les informations, les actualités et les histoires qui vous inspirent dans votre langue. Joignez-vous à la conversation. sbs.com.au/French.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.